Ben, en attendant que ça s'affiche correctement, je vais me permettre de vous présenter, si c'est nécessaire, les invités de cette table ronde qui s'intitule « Quand les romans font des femmes leurs personnages principaux », comme s'il pouvait en être autrement. Pardon. Bien, alors, je vais commencer par notre invitée américaine, puisque les États-Unis sont à l'honneur de cette année du festival. Kristen Brittain, qui est l'auteur de la série Cavalier Vert, et qui est aussi l'auteur, et je pense qu'elles auront l'occasion d'en reparler avec Charlotte Bousquet, d'un livre qui n'a pas été traduit, qui s'appelle Horse and Horse People. Donc je vous invite à retrouver Charlotte et Christine c'est dimanche à 10h pour ouais. Fantasy et Cavalcade. Je pense que ça va galoper. Voilà, alors parlons du Cavalier Vert. L'héroïne du Cavalier Vert est une femme. Est-ce que pour vous, dans cet univers, il était plus important que cette héroïne soit une femme ou bien qu'elle soit une cavalière?
Hello. It's hard to think back that far in history, but I think the female character just came about naturally. In fact, there was somebody else who was going to be the main character and protagonist, but then there was this other character who started out as male, who wanted to have a sex change and became Kerrigan and just took over the story, basically. And it's the personality of the character more than a gendered thing that made her who she was and made the story.
Alors, pour moi, c'est un peu difficile de repenser si loin dans le temps, parce que je l'ai écrit, j'ai commencé la série il y a bien longtemps. Mais pour moi, le fait que ce soit une femme, ça m'est venu naturellement. À vrai dire, au début, le protagoniste devait être un homme. Il a évolué, il a changé de sexe et il est devenu Kerrigan, qui a complètement pris d'assaut l'histoire. Et pour moi, c'est plus une question de personnalité que vraiment de genre, mais elle a vraiment pris l'histoire d'assaut et c'est sa personnalité qui a fait d'elle le personnage principal.
Continuons. Je ne vais pas faire à Stéphane l'affront de lui parler en dernier parce qu'il est le seul homme sur le plateau. Donc, nous allons parler de la série dont le premier tome est Manèche. On ne peut pas dire que dans Manèche, le personnage féminin soit le personnage principal. Qu'est-ce que vous en diriez ?
Alors, je suis le seul homme ici, donc je suis le moins légitime. Donc, je suis déjà assez mal à l'aise. Comme ça, pourquoi en plus tu me poses cette question pour commencer? Mais en fait, Manèche, c'est le premier tome de la série. Et dans ma série, il n'y a pas de personnage principal. Il y a un ensemble de personnages et le flambeau de l'héroïsme passe d'un personnage à l'autre. Donc, c'est assez difficile de dire que c'est pas le personnage principal. Dans le premier tome, c'est vrai qu'on a un personnage masculin qui est très en avant, mais dans le deuxième et le troisième, c'est un personnage féminin qui tient largement le premier rôle, le personnage de Shakti.
Alors justement, est-ce qu'on peut parler de Shakti? Est-ce qu'on peut parler de cette courtisane?
Oui, certainement, oui. Mais sans spoiler.
Sans spoiler, ah, mais jamais, c'est pas mon truc.
Voilà. Oui, donc le personnage de Shakti, c'est un personnage qui est terriblement complexe, en fait. Au départ de son récit, c'est une femme qui va connaître la double fatalité d'être exilée et femme et de débarquer dans une société traditionnelle qui est très patriarcale. Donc, c'est déjà pas drôle aujourd'hui d'être femme et en exil et apatride et réfugiée. Elle va connaître... dans le tome 3, ces deux calamités, c'est très très difficile de remonter la pente dans ces cas-là. C'est un personnage qui va passer pour survivre par des expédients peu glorieux, mais je ne vais pas m'avancer trop loin. Mais en tout cas, c'est un personnage qui a un parcours très complexe et qui est très intéressant de ce point de vue-là. Comment dire sans spoiler, là, je suis perdu du coup.
Je pense que vous en avez déjà dit beaucoup. Voilà. Passons à Estelle. Alors, je vous signale, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, en dehors de notre invitée américaine, nous avons sur le plateau trois coups de cœur des Imaginales. Charlotte en 2011, Estelle l'année dernière en 2015 et Stéphane est le coup de cœur de cette année. Alors, Estelle, est-ce que chez vous aussi, le fait que le personnage soit féminin, c'est une chose importante pour faire avancer un roman, pour le situer, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose auquel vous pensez quand vous écrivez?
Alors, il y a quelque chose qu'a dit donc Christine Britten qui m'a beaucoup parlé, c'est-à-dire, dans un monde idéal, le fait qu'un personnage soit une femme, ça ne devrait pas être une caractéristique forcément importante. Quand on parle de personnages masculins, bah justement, on ne dit pas des personnages masculins, on dit donc X ou Y, il est sorcier, ou il est mage, ou il est détective. Quand on parle d'un personnage féminin, très souvent, on dit c'est une femme et elle est. Et voilà, pardon, désolée. Donc, j'espère que vous avez entendu le début. Quand on parle d'un personnage féminin, très souvent, la première caractéristique qu'on met en avant, c'est une femme et elle est ceci. C'est une femme et elle est cela. Alors, c'est vrai que dans certains contextes, comme disait Stéphane, le fait d'être née femme peut jouer plus que dans d'autres contextes. Donc, contexte, par exemple, de société patriarcale, ou le contexte ici où est plongée mon héroïne, qui a un âge où, normalement, à 16 ans, elle devrait être ou mariée ou religieuse. Mais quelque part, sur un homme, la problématique serait presque la même au fond. Et après, comment dire... Donc ça, c'était mon idée au début, quand j'ai commencé à être auteur. Maintenant, quand j'avance peu à peu dans mon parcours et quand je vois le monde autour de moi en général et, mine de rien, les grands thèmes culturels, les grandes histoires qui irriguent notre culture, je m'aperçois qu'on est quand même encore dans une époque où les personnages féminins sont plus facilement humiliés, plus facilement rabaissés que les autres. Ou par exemple, on est encore dans cette culture où quand un personnage féminin passe par plein d'humiliations, et notamment le fameux cliché du personnage qui se fait violer en fantasy, pour une femme c'est un peu normal pour qu'elle devienne badass après, quoi. Alors que pour un mec ça lui arrive quasiment jamais.
Le fameux mythe du viol fondateur.
Voilà, c'est ça, il y a beaucoup plus de choses finalement qu'on accepte comme presque naturelles quand il s'agit de personnages féminins, et a fortiori, et à l'inverse, je veux dire, quand on a une femme de pouvoir, tout à coup c'est « Regardez, on a une femme de pouvoir !» Waouh ! Ah mais c'est génial ! Et ces histoires-là, ces visions-là, ces histoires qu'on nous raconte finissent quand même par évoluer sur la perception qu'au quotidien on a du monde, qu'au quotidien on a de la société. Je m'en suis rendu compte alors que je ne le pensais pas au début, par exemple en avançant dans mes autres travaux. Je me suis rendu compte qu'en tant que femme, quand j'étais metteur en scène ou quand j'étais réalisatrice, c'est-à-dire quand je dirigeais des équipes essentiellement masculines, de fait, même si je suis super garçon manqué, enfin, je suis encore plus quand je suis sur un plateau, de fait, ça jouait. Et de fait, le fait que j'étais une femme jouait, et on me sortait, par exemple, un metteur en scène, il a une grande barbe blanche. J'aurais du mal.
Voilà, je donc, vois ta barbe.
Tu te rases tous les matins, c'est ça.
Donc maintenant, je commence un peu à changer d'optique et me dire aussi, quelque part, comme les histoires que nous racontons influencent le monde dans lequel nous vivons, nous avons quand même une responsabilité, et notamment nous avons la responsabilité à notre petit niveau de contribuer à changer cette image. Donc voilà, c'est un de mes côtés croisés, je suis désolée, mais j'y crois.
Et on peut l'applaudir.
Ça y est, j'ai peur.
Charlotte, à votre tour, je pense que dans toute votre longue bibliographie, on ne peut pas manquer de noter que les héroïnes sont très présentes. Voire peut-être qu'il y a une minorité masculine.
Il y a un personnage masculin, en fait, dans un de mes romans, qui est un héros, qui est dans Ce feu qui me consume. Alors là, il ne faut pas faire attention à la couverture. C'est une réécriture de La Dame aux Camélias, qui a un héros qui est très, très romantique et qui est très, très peu au fait du monde, en fait. Je crois que c'est le seul personnage masculin au premier plan dans mes romans, à part mon premier cycle de fantasy, qui est égalitaire.
Et est-ce que pourtant, dans Tant d'étoiles dans la nuit, on ne peut pas dire qu'il y ait quand même un personnage masculin, même s'il n'est pas en état de se
Alors,
mettre
en fait,
avant
ce qui était... Oui, c'est Donjon. Alors, en fait, Tant d'étoiles dans la nuit est un roman qui est une réinterprétation de Donjon, avec un personnage central qui est Jess. Qui a presque réussi d'une balle dans la poitrine. Et en fait, ce qui m'a intéressée dans cette réécriture de Don Juan, donc déjà, ça a été de fouiller au-delà, évidemment, de Molière. Molière est très soft, d'une certaine manière. Parce que Don Juan, c'est quand même un personnage qui viole, qui ment, qui assassine, qui voilà. Mais Molière a complètement édulcoré ce côté viola. C'est aussi un personnage qui est très jeune.
Pour mettre en avant la séduction.
Pour mettre en avant la politique. En fait, Don Juan est une pièce politique. Donc là, effectivement, j'ai un personnage masculin qui ne parle pas beaucoup, voire pas du tout, mais qui est extrêmement présent. Et ce qui m'a intéressée, ça a été le truc qui est complètement... Donc vous connaissez tous, qui est que quand on parle de Don Juan, les femmes ont une étincelle dans les yeux en se disant oh, « si seulement j'étais celle qui ». Et les hommes disent « ah, si j'étais comme lui ». Alors c'est très très cliché ce que je raconte, sauf que c'est encore réel. Et c'est quelque chose qui m'agace profondément. Et j'ai essayé vraiment de racler ce qu'il y avait de plus pourri en fait à la souche de ce personnage pour créer Jesse, qui est quelqu'un qui juste ne respecte absolument rien, même pas lui-même. En fait, je suis en train de parler d'hommes, là. Désolée.
Bien. Est-ce que, pour reprendre la fameuse formule de Joss Whedon que vous connaissez peut-être un peu, mais je vais la redire, Charlotte, comme
Merci.
Ça. Comme, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Quand on demande à Joss Whedon, qui est le créateur de Buffy, pour ceux qui ne feraient pas le lien, quand on lui demande pourquoi est-ce que vous continuez à mettre en scène ou à écrire des personnages de féminin forts, et il dit « parce que vous continuez à me poser la question ». Et effectivement, je vais la poser aussi, puisqu'on est loin du moment où les 51% de l'humanité seront traités de la même façon que les autres pourcentages masculins. Est-ce que pour vous, c'est important d'écrire un personnage féminin fort ? Ou est-ce que, comme pour les personnages masculins en général, vous évitez de faire des superwoman ? Est-ce que, au contraire, vous avez envie de leur donner le temps de devenir des héroïnes, le temps de se tromper, le temps d'échouer, le temps de se relever et d'essayer encore ? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les personnages féminins aussi ? Christine ? Qui en est à 5 tomes sur un personnage féminin, donc on peut penser qu'elle a évolué au cours de ces tomes.
Six livres. Yeah, she's really come along over the different books. I will just kind of reiterate that I think it's really important to populate a story with characters who have character regardless of their gender. But sometimes it's not up to the author. Sometimes it's the muse, the story, the character who takes over the writer's brain, and you're sort of channeling what's going on. So being a godlike writer doesn't always happen. It's the story that's in charge. And I feel like my characters are like that. But I'd also like to point out that, you know, there's not just the protagonist who's female, but the book is also populated by young girls, elderly women, middle-aged women, as well as a lot of guys, horses, and other creatures, cats. And, you know, I think all of them should have character. But one of the areas that we don't have a lot of representation are women who are of other ages than, you know, the young heroine type of character.
Alors, donc, il y a 6 livres déjà. Donc, effectivement, le personnage principal évolue à travers les romans, mais je voudrais répéter le fait que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, l'histoire, elle est menée par des personnages avec une personnalité plus qu'avec un genre. Et en plus, ce n'est pas toujours l'écrivain qui décide, c'est souvent sa muse, l'histoire, les personnages eux-mêmes qui prennent le pouvoir, et on essaie juste de canaliser leur énergie pour pouvoir écrire le roman. L'écrivain tout-puissant n'est pas toujours à l'œuvre dans les romans. C'est souvent l'histoire qui mène la danse, et c'est le cas pour mes personnages. Alors, je tiens à préciser également que je n'ai pas seulement une femme protagoniste, mais j'ai aussi des jeunes filles, j'ai des vieilles dames, j'ai des dames d'un âge moyen, on va dire. J'ai aussi des hommes, des chevaux, des créatures de toutes sortes, des chats, et tous ont leur personnalité.
Je croyais que les hommes étaient dans les créatures de toutes sortes, j'ai mal compris.
Et donc, il n'y a pas que des femmes jeunes comme, qui sont des héroïnes. Il y a d'autres personnages d'autres âges.
May I also add that just because I think characters should be character, that I'm absolutely thrilled when young women and girls and actually older women are really inspired by the protagonist of my stories, and they tell me about it. Young families name their daughters after my main character because they admire her spirit and courage.
Alors, je tiens à ajouter également que même si, effectivement, je pense que les personnages sont importants par leur personnalité, je trouve ça vraiment super quand des jeunes femmes, des femmes d'un certain âge ou des femmes d'âge moyen, sont inspirées par mes personnages principaux, ou que certains nomment leur enfant après mon personnage principal parce qu'ils trouvent qu'elle a un esprit super.
Est-ce que, justement, alors, vous, en ce qui concerne la force des personnages, la façon dont elles se construisent, où ils se construisent, peu importe, puisqu'on va essayer de dire que le genre n'est finalement pas si important que ça, est-ce que c'est important de montrer qu'il y a une progression ou de tout de suite passer à un personnage féminin ou masculin qui soit hyper fort?
Oui, donc ici, le personnage de la courtisane, le personnage de Shakti, est un personnage qui va fort évoluer, puisque au début de son histoire personnelle, elle est en gros une adolescente qui tombe amoureuse et qui est en rébellion contre sa mère, avec en plus une tension entre le pôle paternel et le pôle maternel. Et puis survient cet exil. C'est un personnage qui va la devoir affronter des choses très dures, se confronter à un monde qui est dur pour les femmes, perdre beaucoup d'illusions, notamment au niveau du romantisme qu'elle a au début. Elle va devoir déchanter très fort, s'affranchir d'une influence masculine extrêmement insidieuse. Ça parle aussi des jeux de pouvoir au sein du couple.
C'est et très, se reconstruire, très réaliste.
Voilà, très réaliste. Et se reconstruire en tant que femme autonome avec ses armes de femme pour finir dans le groupe dont elle fait partie dans la saga, par jouer un rôle assez pacificateur, en fait, un rôle apaisant, un rôle modérateur, et donc finalement tenir une place importante dans le groupe, mais pas du tout comme une guerrière. Enfin, un petit peu, mais ce n'est pas son point fort. Mais elle est néanmoins très utile au groupe. Alors, c'est vrai que, comme Kristen, il n'y a pas que le personnage féminin principal. Il y a d'autres personnages féminins dans ma saga. Et là, je suis en train de réfléchir tout azimut, parce que je n'ai pas envie d'avoir systématiquement des personnages féminins qui soient clichés, qui soient enfermés dans le rôle de la mère. Dans mon petit roman Dévoreur, c'est vrai qu'on a une mère qui lutte pour défendre ses enfants. C'est poignant, c'est quelque chose qui existe, mais ce n'est pas non plus la seule façon de représenter une femme. J'ai dû mettre en scène une châtelaine qui était une mère très contrôlante dans le premier tome. Dans le deuxième tome, j'avais aussi une châtelaine, une mère à mettre en scène. Il fallait qu'elle soit très différente. Et donc, j'ai interrogé un peu la multiplicité des caractères féminins possibles. Et là, j'ai une mère qui est une femme exubérante, qui assume ses rondeurs, qui se pochetronne joyeusement et qui collectionne les amants, mais avec une joie de vivre incroyable. C'est un personnage qui est finalement très sympathique, mais qui est beaucoup plus gargantuesque. Et c'est... Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une femme que j'admire aussi à sa manière, malgré ses côtés parfois presque un peu rustres. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être une grande guerrière pour avoir une femme qui a des côtés un peu plus festifs.
Et puis finalement, les qualités, elles sont ni féminines ni masculines. Rustre, ça peut être féminin ou masculin. Est-ce que Estelle, vous aussi, vous construisez des personnages qui démarrent de bas et qui montent vers l'héroïsme?
Pour le coup, sur ces questions-là, moi, je n'avais pas une réflexion homme ou femme à la base. Maintenant, je suis en train d'évoluer encore par rapport notamment à Charlotte qui a un parcours assez impressionnant. Je suis encore un bébé auteur. Et oui, non, mais j'ai moins écrit que toi. Et donc, je suis vraiment encore en train d'évoluer.
Elles ne vont pas s'engueuler, hein, je vous promets.
Et quand j'ai écrit Tia, mon perso de la Voix des Oracles, c'était vraiment le genre de perso féminin que j'avais envie d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a des failles, qui va se tromper, qui va faire des mauvais choix par moment, qui par moment va en faire des bons, qui par moment va être trop dur, qui voilà, mais qui a quelque chose, sa colonne vertébrale, c'est une énorme force de volonté qui fait qu'elle va surmonter tout ça, qui fait que malgré tout, elle va jamais abandonner, elle va jamais baisser les bras, elle va continuer à avancer. C'est pas une force de la nature, elle fait 45 kilos toute mouillée, mais quand même, elle va y aller, quoi. Et ça, c'était le perso féminin que j'avais envie d'écrire. Et après, j'ai fini ma série, et je me suis retournée sur ce que j'écrivais en général et à côté. Et je me suis dit, mais tes persos féminins ou ceux que j'écris au théâtre, ce que j'écris dans mes bouts de scénario, finalement, je ne leur permettais pas des choses que je permettais à mes persos masculins. Alors, je vais essayer d'être claire là-dessus. Disons, là où j'en suis de ma réflexion, c'est finalement maintenant ce que j'aimerais voir et ce que j'aimerais faire. C'est des persos féminins principaux, cool, charismatiques, mais chez qui on trouve cool les mêmes défauts qu'on trouve cool chez les mecs. Notamment dans la littérature de l'imaginaire, il y a plein de défauts qu'on trouve cool chez les mecs. Et chez les femmes, c'est toujours un peu, enfin, c'est pas les défauts des filles charismatiques, des filles dont tout le monde va tomber amoureux dans les romans, quoi. Et maintenant, ce que j'essaye de faire, et ce vers quoi j'essaye d'aller en ce moment même, enfin, quand je suis pas en festival, quand je suis en train d'écrire, ben voilà, c'est par exemple, c'est des héroïnes qui boivent trop, qui fument trop, qui se détruisent la santé, comme John Constantine, par exemple, pour ceux qui connaissent. C'est des héroïnes qui aient les tempes grisonnantes comme 95% des personnages masculins de Game of Thrones et 0% des persos féminins de Game of Thrones qui ne sont pas des vieillardes et qu'on ne les classe pas dans le troisième âge pour autant, quoi. C'est des héroïnes qui flirtent comme Jack Harkness, si pour ceux qui connaissent, voilà. Donc, qui flirtent avec des hommes, avec des femmes, avec des aliens et qu'on trouve ça cool. C'est des héroïnes qui séduisent un mec différent par histoire comme Elric et qu'on trouve ça cool aussi.
Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça dans la vraie vie.
Je veux dire, dans les histoires, finalement, c'est des choses qu'on permet aux mecs énormément. Et quand on voit des héroïnes féminines, souvent, elles sont beaucoup plus... pas lisses, mais disons, elles ont des défauts qui sont des défauts que j'aimerais...
Comment dire ? Elles sont irréprochables.
Elles ont des défauts qui sont acceptables pour des femmes. Par exemple, donc...
Bavarde, genre.
Ah non, pas bavarde. Non, des défauts acceptables pour des femmes de fantasy, quand même. Par exemple, c'est elles peuvent se tromper à apprendre de leurs erreurs, parce que ça, c'est un défaut qui, quand même, est quelque part très chargé positivement. Ou donc, elles peuvent, par exemple, aussi aller trop loin parce qu'elles ont trop de courage, parce qu'elles sont un peu inconscientes, parce qu'elles sont trop audacieuses. Ça, c'est un des défauts de Tia, et ce défaut, il est super beau, mais quelque part, il est presque trop beau, en fait. C'est trop facile de faire aimer un personnage féminin dont les défauts, c'est être inconsciente, avoir trop d'audace, être trop idéaliste. Ouais, non, mais là, c'est facile, quoi.
Avoir le sens du sacrifice.
Par exemple, un personnage féminin cool et charismatique qui soit...
égoïste.
Pas forcément égoïste, mais pourquoi pas ? Parce que ça,
c'est un défaut masculin, quand même,
ouais,
non ?
Comment dire ? C'est pas un défaut qu'on trouve cool chez un mec, quand même en fantasy. Mais un personnage qui soit aussi déglingué qu'Harry d'Amour, par exemple. Pour Harry d'Amour, être déglingué, c'est super cool. Ben voilà, je veux une femme déglinguée qui soit cool aussi. Je veux une femme qui a une grande cicatrice en travers de la gueule comme Tyrion Lannister et que grâce à ça, elle séduise des mecs ou des femmes ou ce que vous voulez. Mais voilà, c'est ça. C'est que les défauts cool des mecs, ça devient des défauts cool des filles aussi. Et là, déjà, on a des perspectives super intéressantes et je pense qu'on peut avancer dans cette direction-là.
Si vous applaudissez Estelle, il faut applaudir les autres aussi, sinon il va y avoir jalousie. Stéphane a déjà demandé un combat debout. Bon.
Je suis d'accord, Stéphane, je relève le gant.
Ah, tu n'avais pas prévu de participer. Charlotte,
c'était quoi la question ?
Alors, parce que, heureusement, je m'en souviens. Est-ce que vos personnages grandissent ou sont des superwoman dès le début ?
Ah non. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de plus en plus, c'est travailler sur les failles. Donc pareil, que ce soit, enfin, de construire des personnages, d'ailleurs qu'ils soient hommes ou femmes, sur les failles. Et là, je pense notamment à mon personnage de Là où tombent les anges, Solange. C'est quelqu'un qui est extrêmement passive, qui est en fait jeune sous l'emprise d'un père violent, mais comme pareil, 15 000 lions de personnes à l'époque, avec des parents, enfin un père seul, alcoolique et cheminot, et voilà, donc on est un peu dans du Zola, mais qui va reproduire en fait ce schéma parce que c'est le seul qu'elle connaisse. Et parce qu'en fait, cette violence est confortable. En fait, je travaille énormément et de plus en plus sur la violence, insidieuse ou non, qu'a la société ou qu'ont les sociétés sur nous. Donc, que ce soit, bon, c'est essentiellement en littérature contemporaine ou historique. Et la manière dont, effectivement, ces personnages, donc en l'occurrence Solange, va réussir à s'affranchir donc déjà de son père et puis de son mari. Et puis finalement de devenir qui elle veut, mais ça passe par la guerre, par le fait de fréquenter des milieux littéraires et féministes. J'ai un personnage qui est aussi une vieille dame un peu acariâtre, très acariâtre, Tante Emma, qui est pianiste et dont on apprend aussi qu'elle a enfin du coup sacrifié énormément de choses pour être simplement elle-même parce que l'époque le veut. Et moi, c'est plus ce genre de choses qui m'intéresse. C'est vraiment, je me rends compte à mesure qu'effectivement j'écris, ce sont ces choses-là, ces imperfections, ces failles qui me portent, et la manière dont les gens, finalement, alors hommes ou femmes, vont perpétuer des violences. J'ai écrit un roman qui sort, qui de toute façon, qui n'est pas encore sorti, qui sort fin août, qui se passe dans un univers où les femmes sont de toute manière coupables, vivent sous terre. Enfin, les hommes et femmes vivent sous terre et les femmes sont coupables du coup d'énormément de choses. Mais cette culpabilité est aussi bien, on va dire, validée par des hommes. Les hommes qui dirigent, que par les femmes qui sont complices, et parce que c'est aussi le seul mode qu'elles connaissent. On sait aussi que dans le fait que, par exemple, parler du viol fondateur, c'est bien connu qu'une femme qui se fait violer, soit elle a de la chance parce qu'elle est grosse et moche, soit elle l'a bien cherchée parce qu'elle était jolie. Et en fait, les gens qui disent ça, c'est pas juste des mecs, c'est aussi des femmes. Je me suis vraiment engueulée il y a pas très très longtemps avec quelqu'un qui disait ça, mais non quoi. Enfin, c'est vraiment tous ces comportements qui sont intégrés par nos sociétés qui m'intéressent et que j'essaie d'interroger et que j'essaie de faire bouger à travers ce que j'écris de plus en plus.
Est-ce que je peux lancer un petit défi, parce que j'entendais parler de ce mythe du viol fondateur, c'est un horrible. Peu scandaleux en fantasy. Est-ce que je peux lancer un défi à terme de 10 ans, parce qu'il faut se laisser le temps, à tous les auteurs présents ici, c'est d'inclure dans un prochain roman un viol masculin fondateur. Mais je viens de
dire, attends, dès qu'elle y a pensé, dès qu'Estelle l'a dit, j'ai pensé.
En fait,
même esprit tordu, Charlotte.
Donc ça veut dire que dans notre prochain roman, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, vous trouverez ça.
On peut aussi espérer qu'il y a un moment où ça ne soit pas les viols qui soient fondateurs pour les personnages.
Ou la perte des parents. Ou, voilà.
Alors, sans le côté fondateur, je conseille déjà beaucoup à Stéphane Plateau et à tous ceux qui aiment le polar ici. La lecture du... Qui aime le polar, quand rien contre le glauque. La lecture du dernier Claire Favant, Serre-moi fort. Voilà. Et qui, justement, met son personnage masculin dans des situations où il ne les met pas d'habitude. Et pour lui, c'est... Comme c'est un roman qui a quand même une psychologie assez réaliste, ce n'est pas fondateur, c'est destructeur. Et c'est accessoirement très bien écrit. Donc Claire Favant, Serre-moi fort. Si vous n'avez pas peur du sombre, allez-y.
Alors si c'est comme ça, moi je conseille Qui Prenez a peur de notes. La mort, de Neddy Okorafor, pour ceux Évidemment. Qui n'ont pas déjà lu, qui est Évidemment. Un merveilleux roman avec un personnage féminin africain et qui, sous couvert de raconter l'histoire d'une sorcière, parle beaucoup d'affrontements ethniques, mais parle aussi d'excision, parle aussi du statut de la femme. Et c'est vraiment formidable parce que c'est un roman qui sensibilise à ces questions-là tout en ayant l'air d'être un roman d'aventure sympa.
Alors du coup, j'y vais aussi de mon petit conseil. Alors c'est pas un roman, c'est un essai de Michel Terechenko qui s'appelle Ainsi fragile, vernis d'humanité, banalité du bien, banalité du mal, qui s'interroge en fait sur notre rapport à l'autorité, à la violence et au fait qu'est-ce qui fait que certaines personnes, effectivement, qu'on peut voir en ce moment dans les manifs, qu'est-ce qui fait que y a des CRS qui continuent à charger même s'ils ne sont pas fondamentalement d'accord avec le fait de jeter pied de pierre sur des gens, et qu'est-ce qui a fait pendant la Seconde Guerre mondiale que des soldats de l'armée allemande ont tué des gens, qu'est-ce qui fait que certains ont pu partir. Et c'est vraiment sur ce petit basculement et sur ce rapport au groupe et à l'autorité que Michel Terechenko écrit, et c'est génial. Christine, we are waiting for advice.
Nous attendons pour un conseil de la part de Christine de lecture. Ça devient un club de lecture.
Well, I think one of the popular culture things right now is Diana Galbanon's Outlander, if you're talking about male rape.
Yeah.
Laissons Hélène traduire. And c'est Outlander de Diana Gabaldon.
Ouais.
And it's not just using rape as a default plot device.
Parce que donc je vous conseille donc Outlander, et parce qu'on ne se sert pas du viol comme d'un truc, enfin, pour construire l'histoire.
D'un outil
pour l'histoire, pas juste comme ça.
Et accessoirement, moi aussi, je voudrais beaucoup conseiller Outlander pour en plus 2 autres raisons. Bon, déjà, c'est un super cool bouquin de fantastique historique. Et en plus, c'est, mine de rien, un des romans de la culture vraiment mainstream qui change le rapport classique entre son héroïne et son héros, entre le personnage masculin et féminin, dans un contexte où il y a quand même beaucoup de romance. Donc où on dirait, ouais, non mais ça s'y prête pas et tout. Non, au contraire, ça s'y prête vraiment. Et en évitant l'excuse facile de... Oui, non, mais vous comprenez, là, c'est un monde où les femmes, elles sont en minorité et elles sont humiliées, mais c'est parce que c'est un contexte historique. Eh bien non, Outlander, c'est un contexte historique. Et il y a quand même des femmes fortes, et il y a quand même des femmes qui ont le lead. Et en plus, c'est une super bonne histoire. Merci, Christine.
Bon, alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a établi que, d'une, finalement, le genre n'avait pas tellement d'importance pour déterminer vos personnages principaux ? Ça s'impose de soi-même et c'est finalement le personnage qui est principal. Et après, c'est une femme, tant mieux, c'est un homme...
Tant mieux aussi, ça peut être.
ça arrive, c'est pas grave. Mais est-ce que du coup, vous vous sentez... Ça vous semble important pour vous, Christine, l'a abordé tout à l'heure, cette question de la représentativité, puisqu'on en parle aussi avec Nnedi Okorafor et dans Qui a peur de la mort, la question des races et la question du genre. Est-ce que diversifier ces personnages et leur donner... des aspects, des caractéristiques, des choses qui ne sont pas mainstream et qui ne sont pas ce qui est considéré comme normal dans nos sociétés. Est-ce que ça vous semble essentiel pour proposer au lecteur une autre façon de regarder, de lire le monde ?
Complètement. En fait, dans la trilogie de l'archipel de Numiné, l'archipel s'est beaucoup étendu au fur et à mesure que je construisais mes différentes sociétés. Donc le dernier tome parle de Dionysia, qui est une métisse et qui se retrouve en fait donc hors cadre dans une île du Nord où les gens ne sont pas très sympathiques. Et en fait, la couverture, c'est très bizarre, la couverture interpelle. Et bizarrement, c'est pas le roman qui se vend le plus. Et il y a quand même encore des trucs. Et je trouve que c'est très, très important, en fait, de dire qu'on existe tous, quel que soit le genre, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les préférences sexuelles, et on s'en fout. En fait, le truc, c'est ça. Le problème, c'est que personne s'en fout, mais en vrai, on devrait s'en foutre. Il y a eu, il y a quelques années, malheureusement, ça continue encore à sévir, le Dico des filles. Le Dico des filles, on avait un groupe d'auteurs jeunesse, nous avait énormément choqués, puisqu'on vous expliquait que... l'IVG, l'IVG c'est très 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 mal, mais alors l'homosexualité, ça peut être tolérable parce que c'est passager. Voilà. Donc en fait, on a été un groupe d'auteurs à décider de, en gros, puisque c'est ça, de toute façon, on va avoir des personnages homosexuels, quel que soit le roman, même si c'est juste un couple qui passe, et c'est aussi une manière de dire les choses. Et il faut arrêter de croire que... Enfin, voilà, c'est vraiment...
Et de proposer au lecteur un monde multiple.
Et voilà, et c'est pas grave. Enfin, je veux dire que c'est ce qui est intéressant, justement, c'est la diversité. C'est ce qui fait notre monde, quand même. Alors après, c'est un peu pays des bisounours, mais bon, c'est autre chose.
Est-ce que, Christine, vous vous sentez, je vais pas dire investi d'un rôle, on va rester dans une certaine humilité, mais est-ce que ça vous semble important de proposer cette diversité, de proposer, vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que vous auriez envie d'écrire, je sais pas, des personnages encore plus différents, encore moins classiques?
Yes, I think it's important to show the diversity of the world. I mean, it helps create a greater world-building experience, greater characters. I am always learning and trying to do better as time goes on.
Alors oui, effectivement, je pense que c'est très important de montrer la diversité du monde dans nos romans. Ça donne une meilleure expérience au lecteur. Mais personnellement, j'apprends toujours en tant qu'écrivain et j'essaye toujours de faire mieux.
Stéphane, on veut... Have you finished?
No. I was just going to say the real world is a very complicated place and there are so many details and you try to mirror that a little bit in your fiction as well, just to give it depth and to give it appeal and I guess I don't know what else I'm going to say. So.
Alors effectivement, moi je pense que le monde est vraiment très complexe, qu'il y a beaucoup de détails dont on essaye de se faire le miroir dans les romans. Voilà, là je ne sais plus trop quoi dire.
Alors Stéphane, est-ce que vous aussi vous essayez de représenter la diversité ? Je sais que vous racontez des histoires ancestrales, vous aimez mettre en scène des choses qui font partie des légendes et des contes, comme le Barabata. Est-ce que c'est important de montrer la diversité du monde quand on écrit ?
De plus en plus, une des choses qui me fait vibrer et qui me donne envie d'écrire, c'est justement la diversité. Je crois que j'ai vraiment décidé que je voulais écrire et faire ça de ma vie en, en m'essayant à décrire le visage et la mentalité d'une vieille femme sur la porte de la mort est très sereine. Et c'est un personnage qui m'intéressait beaucoup. On parle très peu des vieux en littérature en général. Or, c'est une problématique qui nous concerne tous. Désolé. Hein.
On parle souvent de la mort et ça nous concerne aussi.
Oui, mais pas de la mort progressive, de la mort avec une lente descente dedans. Alors moi, j'aime beaucoup parler, et c'est vraiment vers ça que je vais, notamment dans la suite de ma saga, des marginaux, des exclus, des minorités, de ceux qui doivent se battre, en gros, de toutes les injustices. Et donc, forcément, le statut des femmes est une question qui, dans un monde médiéval fantastique, donc en général une société traditionnelle et patriarcale, c'est un sujet vraiment prégnant, quoi. J'ai une scène qui se passe chez un notaire dans le prochain tome, où les amants héritent d'une maison, et monsieur s'arrange pour acter ça du côté de la frontière où le droit est défavorable aux femmes, comme ça la maison n'appartient qu'à lui. Connard. Donc, dans la diversité aussi, on ne parle pas souvent des personnages féminins négatifs, des monstres. Donc, moi, je rejoins complètement le plaidoyer d'Estelle tout à l'heure. Hein. Je suis dans la même recherche de personnages féminins avec toutes les caractéristiques possibles, imaginables. On reste trop souvent dans le cliché quand on a des personnages féminins. Là, j'avais dans Shakti qui vient de sortir, il y avait un ours. L'exil commençait par l'affrontement avec un ours ancestral. Qui était un monstre sacré. Et puis à un moment, je me suis dit, mais pourquoi un ours, quoi ? Et donc j'en ai fait une ours.
Surtout qu'il y a une grande ours que tout le monde connaît.
Oui, mais ça n'a rien à voir. Ah bon, mince. Et donc j'en ai fait une ours. Et c'est devenu tout de suite beaucoup plus intéressant parce que ça, en plus, ça offrait une résonance avec le personnage de la mère contre lequel le personnage féminin était un peu en affrontement. Mais donc voilà, aussi des monstres féminins, mais des ennemis féminins, des vilains féminins qui ne soient pas seulement des Cersei Lannister, c'est-à-dire des intrigantes ou des méchantes reines de Blanche-Neige, quoi.
Mais l'ennemi féminin, il existe dans les légendes et dans les cultures, dans les contes depuis longtemps. Je veux dire, la sirène, la gorgone.
Ce sont des représentations de la mort, en fait. D'une mort qui n'est pas du tout une mort, on va dire, douce. Et voilà, c'est marrant, tu parlais de la mort tout à l'heure. Mais qui sont vraiment la mort, quand on se la prend en plein poids, avec ce qui est ver, putréfaction. Et vraiment la représentation de notre finitude. Il y a Jean-Pierre Vernant qui a écrit des choses très très belles là-dessus, notamment La mort dans les yeux, qui parle justement de regarder Gorgo face à face et se voir disparaître et savoir que derrière notre chair, il y a un crâne avec des orbites vides, des petits... En fait, ça nous ramène à hier, il y a l'archivisme avec des petits vers qui sortent, et c'est ça, en fait. Et la femme est vraiment... Excuse-moi, je suis désolée. Non, qui est vraiment souvent très associé à ça.
Sauf chez Terry Pratchett.
Oui, non, mais c'est Bigadin qui fait la différence, quand même.
Non, c'est pour rebondir justement complètement sur ce que tu avais dit. Donc, désolée, pardon. C'est vraiment, disons, les figures féminines qui sont du côté de la mort, du côté de la négativité. Quand même, on en a pas mal déjà. En effet, on a des belles galeries de personnages. Et donc, vraiment, là où en tout cas... Moi, j'ai envie d'aller, c'est vers des héroïnes, vraiment, vers des héroïnes charismatiques, vers justement le côté, pas solaire, parce que vu comme je vais les casser, ça ne sera pas que solaire, mais vu comme je vais les salir, ça ne sera pas que solaire, mais du côté vraiment cool, identificateur de la force, quoi. Et si je peux me permettre, pour répondre à ta question, de parler non pas en tant qu'auteur, mais en tant que fan d'imaginaire à la base, donc on avait parlé du mainstream. Je crois... vraiment profondément que pour changer aussi le monde, il faut changer le mainstream. Et dans les cultures de l'imaginaire, on baigne quand même aussi là-dedans, on baigne dans le mainstream, mais aussi au bon sens du terme, il y a un bon sens du mainstream. Par exemple, on parlait d'Outlander tout à l'heure, ou de Joss Whedon, des persos comme Buffy, où donc, mine de rien, toutes les femmes des X-Men font énormément pour changer le monde, font énormément pour que des gamines et des modèles aussi auxquels s'identifier, enfin... Moi, quand j'étais môme, la première fois que j'ai vu des persos féminins qui vraiment pouvaient me parler dans des œuvres, c'était dans Street Fighter, quoi, parce qu'il y avait Chun-Li, et Chun-Li, à la fois, c'était une vraie fille, et en même temps, elle mettait des super coups de pied. C'était Final Fantasy, où Final Fantasy, c'était des filles monstrueuses, et en même temps, qui étaient super charismatiques. Celle de Final Fantasy VI, qui est à moitié un monstre, à moitié une fille aux cheveux verts, c'était génial, quoi. Et vraiment, du côté des héroïnes féminines, des persos féminins positifs, je pense qu'il y a... Là, je vais sortir du côté croisé pour le coup. En tant bassement qu'auteur, il y a tout un réservoir de personnages juste géniaux qui peuvent être hyper, hyper bons à lire, qui peuvent vraiment procurer des émotions de malade au lecteur, et c'est un réservoir de personnages qu'on a à peine effleuré. Donc juste pour le plaisir du lecteur aussi, il y a plein de choses à prendre là-dedans.
Et est-ce qu'on ne peut pas dire que très récemment au cinéma, on a vu la marque très nette du fait que si les auteurs et si les scénaristes ont envie vraiment de proposer de la diversité, peu importe ce que vont dire les râleurs et les haters, ça va marcher. Je pense à Star Wars, au dernier Star Wars, tout simplement.
Bah oui, complètement.
Donc, Team Crew, Team Ray, de ce côté-là.
Ouais, qui est un personnage absolument génial.
Et Team Finn, est-ce qu'il y a de la Team Finn aussi ? Bon, ça va. Donc, un personnage principal noir, un personnage principal féminin.
Ouais. Et un jour, ce sera juste des personnages principaux et ce sera génial.
C'est ça, voilà. Nous attendons avec impatience le prochain roman où le personnage ne sera ni un homme ni une femme, on ne sera pas, et sera un assassin à capuche. Comme ça. Pour rester un peu mainstream et fantasy quand même. Vous êtes... Bon, est-ce qu'il y a une petite question ? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question dans la salle à nos auteurs sur le genre, sur le rôle des personnages féminins, sur... Oui, je vous écoute. Venez, approchez-vous.
Excusez-moi, j'étais première dans cette situation, donc si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Mais tout à l'heure, on a parlé des personnages, vous avez parlé des personnages de, surtout Madame Faye, de personnages de féminins que vous aimeriez avoir. Est-ce qu'il y aurait des personnages féminins dont vous ne voudriez plus avoir, justement ? Autant en tant qu'auteur et surtout en tant que lecteur.
Voilà. Quels sont les personnages féminins qu'on doit supprimer absolument des prochains romans ?
Alors, je suis pas pour supprimer dans l'absolu. Pour ajouter.
Ça ne meurt pas dans vos romans, donc Estelle. C'est ça.
Ça meurt beaucoup moins que certains autres, hein, sans vouloir faire de spoiler. Voilà. Mais après, par contre, c'est plus des attitudes qu'on devrait dépasser, je trouve, et notamment ce qu'on avait un petit peu abordé tout à l'heure, l'attitude de l'excuse facile. Quand on fait du roman historique, on ne va pas parler de femmes parce que, de toute manière, c'est une époque où les femmes, elles n'ont pas beaucoup d'importance.
Ni de noir.
Voilà. Par exemple, moi, j'ai la chance d'avoir une mère scientifique et quelqu'un d'exceptionnel et qui, notamment, m'a montré l'histoire des sciences aussi avec l'importance des femmes qui font des sciences. Et il y en a plein qu'on a oublié. Par exemple, est-ce que quelqu'un ici dans la salle a entendu parler de Reine Lepaute ? Voilà. Donc, Reine Lepaute, merci. C'est une mathématicienne super badass, c'est une femme de science du 18e siècle en France.
Est-ce que vous pouvez noter la notion de mathématicienne badass ?
Non, mais je trouve que c'est bien, ça va très très bien.
Okay. Et donc, vraiment, elle a organisé parmi les premières grandes expéditions scientifiques. Elle a refait des calculs de Newton en disant qu'il avait tort et qu'elle avait raison, et c'est elle qui avait raison. Voilà. Et c'est ça, quoi. Et des femmes comme ça, il y en a plein. Simplement, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Voilà, et l'histoire, en plus, quand on voit le contexte dans lequel elles ont dû exister, qui quand même était hyper peu favorable, et qu'elles ont réussi quand même à faire autant de choses. Quand on me sort l'excuse de « oui, mais j'écris un roman historique dans telle ou telle période, donc par exemple, va pas y avoir de femmes parce que j'écris au 19e siècle dans une université de médecine ». Déjà, même si dans cette université-là, il n'y a pas de femmes, tout autour, les héros, ils sortent, ils voient des femmes, ils voient quelles femmes ? C'est ça aussi la question, c'est au bout d'un moment, on oblitère les femmes de manière super facile.
Ou alors on oblitère aussi dans les arts.
Voilà.
Ou alors, effectivement, ce sont des compositrices ou peintres, ou ce qu'on veut, mineurs, ou ce sont des muses. Ou alors, effectivement, il y a eu un drame fondateur. Donc Frida Kahlo, on a le droit de l'aimer parce qu'elle a été mutilée, accidentée et tout ça. Et Artemisia Gentileschi, heureusement qu'elle a été violée. Voilà, parce que sinon, ce serait des personnalités mineures des arts.
Stéphane nous parlait d'Hypatie.
Oui, on a Hypatie d'Alexandrie, évidemment, qui est aussi un grand personnage. Et puis, il y a ce drame-là qui a survenu quand l'Académie française a éliminé des mots féminins, n'a gardé que poétesse. Mais, par exemple...
Revenons à la grammaire.
Autrice existe.
Contrairement à ce qu'on croit, le masculin qui l'emporte... dans le français, c'est pas si vieux que ça.
C'est 18e siècle, hein, il me semble.
Et alors, au niveau du roman historique, en tout cas pour le tout ce qui est période médiévale, on n'a vraiment aucune excuse, parce qu'on a une période où le statut de la femme est en fait tout à fait supérieur à ce qui se passe à l'époque romaine et même au XIXe siècle, avec des femmes chefs d'entreprise, des femmes châtelaines qui tiennent tout à fait le pouvoir, des femmes profs d'université, on connaît l'histoire d'Abélard et Héloïse aussi, et donc vraiment des femmes qui peuvent être, les abbesses évidemment qui avaient un rôle super puissant, donc des femmes qui ont le droit de posséder leurs biens, qui ont le droit d'être propriétaires, d'hériter en leur nom propre. On a le monde celtique, là aussi on n'a aucune excuse, hein, avec des mariages qui sont conclus pour une durée déterminée, et si la femme s'en va, la femme reprend l'ensemble de son patrimoine.
Voilà, et pendant les guerres, il faut quand même qu'on sache, qu'on soit conscient que les guerres de 1914 et 1939-45 auraient été probablement perdues s'il n'y avait pas eu les femmes et les colonies. Voilà, qui ont été aussi bien oubliés, donc les régiments de Spahis pendant la guerre de 14-18, le fait que les femmes aient travaillé dans des usines, aient pris les postes des hommes, aient tenu finalement le pays, et aussi espionné, et pas juste Mata Hari, qui était un peu quand même une affabilatrice, mais des vraies filles qui ont vraiment fait un super boulot et qu'on a complètement occulté dès 1917 avec Retourner au foyer, fête des enfants et taisez-vous, quoi.
Stéphane ? Christine. Un petit mot pour conclure. Est-ce qu'on va encore longtemps voir des personnages féminins principaux et secondaires dans vos romans et est-ce que ça vous semble un trend, une mode définitive et souhaitable?
I think it's the way I've always gone, and I think I still had it right as bringing everything down to a fine point. Women are cool.
Donc je pense que je l'ai toujours fait et je pense que pour en arriver à une conclusion, les femmes sont cool.
Ouais. Stéphane va confirmer.
Oui, moi, un personnage j'ai terriblement envie de faire aussi, c'est une femme élément comique. Une femme bouffon, une femme qui fait rire, une femme qui amuse la galerie, une femme qui est drôle. Moi, j'adore les femmes qui sont drôles. C'est peut-être l'argument de séduction le plus important par lequel j'ai été séduit d'ailleurs, c'est d'avoir une femme qui est drôle. Et pourquoi pas, on s'interdit un peu, ça fait partie des choses qu'on s'interdit peut-être, une femme qui soit un véritable clown, qui soit comique.
Alors, si je peux me permettre, dernier conseil de lecture pour la route, Stéphane, tu lis Aliatre Noir de Cecilia Correa, c'est une fille qui est super drôle, et franchement c'est un bonheur de lecture. Voilà.
Charlotte, on va continuer avec les personnages féminins pour vous, les personnages forts en tout cas.
De quoi de personnage drôle, mais personnage fort féminin, là, comme
oui,
ça, tout de suite.
Non, mais ça va continuer. Ce que je veux dire, c'est que ça
est-ce
va
que
continuer.
Je vais continuer?
Oui.
Je suis en train. mais c'est pas des personnages. Je sais pas si c'est des personnages. C'est des personnages qui deviennent forts. Mais là, je suis en train d'écrire un roman, alors qu'il n'a rien de fantaisie, qui est du contemporain qui se passe aux États-Unis, qui est sur quelqu'un qui plaque tout. Pour du jour au lendemain, qui plaque son mari, sa vie de banlieue pour partir dans l'Ouest à cheval. Donc, mais c'est sur, en fait, c'est plus sur les carcans, la fête de briser des carcans et ce genre de choses. Et puis un roman de fantasy, oui, avec des personnages qui vont devenir forts pour l'instant. Et j'ai une jeune rebelle idéaliste qui va s'en prendre plein la gueule, un androgyne qui va s'en prendre plein la gueule et une esclave qui s'en prend déjà plein la gueule.
Voilà. Ouais. C'est chouette d'être un héros chez Charlotte.
Mais oui, mais je ne sais pas faire le drôle. Mais pour le très, très drôle, alors je vous conseille, mais ce n'est pas du tout de la fantaisie, des romans d'Anne Persin, avec un personnage masculin qui ne fait que des gaffes. Et qui est super marrant, c'est Comment bien rater ses vacances, c'est pour ados, et c'est des super lectures de vacances. Et voilà. Là, on repart sur autre chose.
Votre panier de lecture est plein, hein, vous avez noté les conseils, et surtout, j'espère, votre esprit est encore plus ouvert qu'avant que cette conférence ait commencé sur le fait que hommes, femmes, peu importe, on a tous notre diversité, notre différence à apporter au monde. Voilà, merci à vous, et merci aux auteurs.